Salut à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 30 du podcast de Rendez-vous Création. On va parler aujourd'hui de photos et en particulier de portraits. Et je suis aujourd'hui avec Arnaud Février qui est photographe. Salut Arnaud.
Bonjour Nicolas.
Sur quel genre de projet tu travailles Arnaud en général ?
Je travaille essentiellement sur des portraits qui sont liés aux maisons d'édition. Et puis aux magazines, des commandes de magazines. Et puis il y a une partie corporate aussi.
Et tu fais ça depuis longtemps ?
Écoute, j'ai commencé le portrait vraiment, je pense, qu'il y a à peu près 6-7 ans. Je fais de la photo depuis 90. Je suis sorti de l'école en 89-90. Et oui, 91, j'étais déjà sur le marché.
Et avant les portraits, tu as eu d'autres expériences photographiques ?
Oui. L'expérience était assez différente. C'est-à-dire que j'ai commencé par être assistant d'un très très bon photographe qui s'appelle Joachim Bonnemaison, qui était lui spécialiste dans les hôtels, dans les hôtels de luxe. Et pendant à peu près 4 ans, j'ai fait tous les grands hôtels de luxe en France et Europe. Et on faisait tout ce qui était plaquettes, c'était très compliqué. J'ai beaucoup appris avec lui parce que c'était vraiment un maître de la lumière. On travaillait, pour les gens qui s'y connaissent un peu en photo, on travaillait uniquement en tungstène. Donc par exemple, quand on arrivait dans une chambre d'hôtel ou dans un grand salon, on filtrait entièrement les fenêtres en gélatine orange.
Quand
on avait des kilomètres et des kilomètres de gélatine orange, ce qui faisait que la lumière donc, qui arrivait de l'extérieur était transformée, on va dire, en lumière tungstène, donc 3002 degrés Kelvin. Et après, nous, à l'intérieur, on rééclairait avec des points plus ou moins chauds en tungstène aussi. Et on travaillait chambre 4-5 et 20-25 aussi. Et là, c'était vraiment comme des tableaux. J'ai beaucoup appris en lumière là. Après, j'ai fait d'autres choses. Il faut dire que historiquement, moi je suis fils de photographe. J'ai un père qui est spécialiste des bateaux, qui s'appelle Christian Février, qui a été et qui est toujours un des grands photographes du monde de la mer, avec une vision bien à lui. C'est aussi un historien de la mer. Donc il m'a légué la passion de la photographie. Et puis un petit morceau de son regard sur le monde qui nous entoure.
Tu m'as dit que tu avais fait aussi des photos sur scène, non ?
Oui, j'ai fait pendant un certain temps. C'était une aventure bien particulière. Quand je suis sorti de l'école, la personne qui s'occupait à l'époque de Jean-Michel Jarre, le musicien, était venue voir le directeur de l'école et avait choisi une dizaine de photographes pour participer au concert de la Défense. Il fallait absolument tout shooter, donc on était une dizaine. Le concert s'est bien déroulé. Il y a eu un livre qui a été produit aux éditions du Moniteur, très très beau livre. Et deux personnes sont restées, moi et une jeune fille. Et on s'était lié d'amitié avec les gens de la production de Jean-Michel Jarre, lui-même aussi. Il avait apprécié notre jeune travail avec notre jeune regard. Peut-être qu'on était un peu décalé par rapport aux autres. Et on l'a suivi pendant 4-5 ans. Donc moi j'ai fait toute la série des concerts de Jean-Michel Jarre en Europe, en Afrique du Sud aussi, en Suisse. Et là c'était toujours assez technique puisque les pauses étaient souvent assez longues. Mais c'était très 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 intéressant. Donc on était partagé entre une photo un peu d'architecture et puis aussi une photo de scène. Parce que c'était aussi scéniquement, c'était vraiment très très intéressant.
Et là, tu m'as parlé d'un gros projet que tu as en ce moment.
Alors, on a, avec tous les écrivains que j'ai rencontrés ces dernières années, les livres que j'ai lus aussi, les maisons d'édition que j'ai rencontrées, il y a des gens comme ça que tu crois sur ton chemin. Et j'ai croisé Guillaume Robert, qui est éditeur chez Flammarion, avec lequel je me suis tout de suite bien entendu. Guillaume Robert, c'est quelqu'un qui a produit Florian Zeller, qui a édité Florian Zeller, Audrey Diwan et d'autres encore. Et comme ça... Tania de Montaigne, absolument. Un soir comme ça, on discutait et je lui dis, écoute, c'est vrai que toute cette génération de jeunes filles qui écrivent depuis 4-5 ans, peut-être ça serait bien de matérialiser un peu toute cette production par des portraits. Donc moi j'avais envie de les photographier. Le projet commence, on est vraiment au début, donc on va estimer que l'issue ce serait... Moi je vise Noël 2008 avec plutôt un espèce de livre-objet, pas très cher, qui ferait un joli cadeau. Avec peut-être, je dirais, une quarantaine, cinquantaine de portraits. Et Guillaume, tout de suite, a été enthousiaste et m'a proposé d'écrire. Parce que moi, j'aime bien les binômes. La photo est une chose, mais je trouve que quand elle est alliée avec un texte, un joli texte. Donc, ça va être des choses assez courtes que va écrire Guillaume, assez fraîches, drôles, ça j'en suis persuadé, bien senties à chaque fois sur les auteurs. Donc on va se partager entre une double page avec un portrait et puis un texte qui va aller avec. Mais le projet commence, je vais commencer, je pense, peut-être dans une semaine, 15 jours, on va commencer la production photo, voilà.
Et quand tu fais des portraits hors contexte important tel que celui d'un projet de livre, ça doit être des portraits au coup par coup, c'est ça ?
Absolument, les projets arrivent souvent au coup par coup. J'ai la chance d'avoir des relations un peu privilégiées parfois avec certains magazines, avec certaines agences de communication, et puis avec certaines sociétés aussi qui me font confiance. Sur une partie peut-être qu'on pourra développer un peu plus tard, j'ai fait aussi la connaissance d'un agent de photographe qui lui démarche toute la journée et montre les books de ses photographes dans différentes sociétés et montre des projets photos, ce qui fait qu'on s'est retrouvé cette année à travailler pour Suez, pour Dassault, et ça c'est du portrait dit plutôt corporate, et que j'aime bien faire aussi parce que c'est vraiment intéressant.
Donc soit via tes contacts directs, soit via ton agent, tu obtiens des commandes.
Voilà, exactement, ouais, tout à fait.
Et à partir de là, il y a des discussions sur comment doivent être faits les portraits.
Alors, pour la partie écrivain, moi je vois ça souvent avec les éditeurs et puis avec les gens du studio de création, que ça soit les gens de Flammarion, la maison d'édition de Noël, avec lequel je travaille, qui est la plus ancienne pour moi, parce que je travaille avec eux depuis 6-7 ans, donc ça fait longtemps qu'on est ensemble. Avec une nouvelle maison d'édition, comme la maison d'Héloïse d'Ormesson, par exemple, qui a été créée il y a maintenant 2 ans et demi. Là, on discute sur une approche. Souvent, les maisons d'édition ont besoin de, on va dire, de 2-3 portraits. Il y a un portrait relativement, je vais dire, classique qui arrive en quatrième de couve. Que moi j'aime bien faire, même s'il apparaît souvent petit, parce que j'ai souvent comparé ça à un peu une miniature russe. C'est un petit espace dans lequel il faut s'exprimer. Moi j'aime bien que les gens soient beaux, c'est un de mes critères, peut-être parce que aussi je suis fils d'esthéticienne, donc ça fait un marin, c'est un de mes critères importants chez moi. Après il y a une autre série de photos qui va être destinée à la presse, qui est souvent un cadre un peu plus large. Bon, là on cherche une ambiance, on cherche à capter quelque chose d'assez essentiel chez les écrivains, une certaine réalité aussi, même si elle est parfois tronquée. Moi, je mets souvent en valeur les gens. Je les fais poser aussi, c'est vrai. J'avoue que j'ai une préférence pour la pose, donc c'est une pose organisée, et je rééclaire beaucoup. Voilà, ça, c'est un de mes critères.
Ok, ouais, c'est une question que j'avais au niveau des portraits. Ton approche, c'est plus sur le vif ou bien la mise en scène ?
J'avoue que je mets en scène. Je mets en scène beaucoup. Alors, mettre en scène, c'est aussi... on peut avoir aussi de l'instantané. Je veux dire, rien n'empêche l'un et l'autre. À savoir, on est sur une trame sur laquelle on va travailler, on se met d'accord avec l'écrivain, et dans un rectangle d'image, à ce moment-là, elle évolue ou il évolue, et moi, je travaille. Mais c'est vrai que si une lumière est déterminée, tu peux difficilement en sortir, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Après, il faut toujours se laisser de l'improvisation, parce que là aussi, on a de très très bonnes photos.
Du coup, tu dois faire des repérages quand même, non ?
Écoute, on fait des repérages quand on travaille en corporate, mais chez les écrivains, à part si on les connaît, évidemment, si on les connaît personnellement, j'en connais pas mal personnellement, donc on connaît les appartements, parfois on connaît les maisons, parfois on connaît aussi les lieux où ils aiment se faire photographier. Ce qui est assez drôle, par exemple, moi je sais que, comme quelques-uns dans la profession, c'était un peu une tradition d'emmener les écrivains au palais du Luxembourg. Donc au jardin du Luxembourg, il y a le Sénat, sauf qu'il faut toujours des autorisations pour travailler dans le jardin. Bon, moi, j'en ai jamais eu. Je me suis toujours fait avoir par les gardiens. Et finalement, comme on dit dans le métier, je suis tricard au Luxembourg. Je ne peux plus travailler au Luxembourg. Donc, à partir de ce moment-là, mais je l'avais fait 3-4 fois. Et puis après, c'est vrai que j'ai aussi bien aimé travailler chez eux, dans leur contexte, à eux. Donc, c'est comme je viens à domicile, je m'imprègne, on cherche un endroit où travailler. Ça peut être la salle de bain, la cuisine, une chambre, un salon, ce qu'on veut. C'est pas
chez eux.
Ouais, chez eux. J'aime bien ce rapport-là. Donc c'est plus personnel, je trouve.
Il peut y avoir des autorisations, un droit d'accès à un lieu pour prendre des photos. Il peut y avoir, j'imagine aussi, tout simplement, des autorisations par rapport au droit à l'image. C'est peut-être pas toi qui le gère.
Alors, les maisons d'édition gèrent ça de manière différente. Chez Flammarion, par exemple, on fait signer, bien entendu, un droit à l'image par tous les écrivains qu'on photographie. Oui, absolument. Ça, c'est au niveau du juridique, c'est très très important aujourd'hui. Mais ça fait partie chez De Noël aussi, chez Loïs d'Ormesson aussi. Ça cadre un peu, je dirais. D'ailleurs, ça cadre pour l'auteur, bien sûr, l'écrivain, mais ça cadre aussi pour le photographe. Donc c'est aussi c'est une bonne chose. C'est bien que ça soit un peu encadré, notamment.
Et puis, il y a de toute façon un contrat pour la commande.
Il y a un contrat pour la commande, absolument. Oui, tout à fait. Avec un prix par photo. Et puis, surtout, ce qui est toujours intéressant et vital, c'est tous les droits qui sont bien précisés, les droits pour cette photo.
Au niveau du budget, ça se passe comment? Si tu as besoin de...
Au niveau du budget, s'il y a des dépenses. Les dépenses supplémentaires... Ça pourrait être, par exemple, ça peut arriver, on avait Nathalie Delon, par exemple, pour Flammarion. Elle voulait absolument être, on voulait absolument travailler en studio. Donc, on a travaillé en studio, donc on a loué un studio une demi-journée. Il y avait une maquilleuse qui est venue. Voilà. Donc, ça, c'est des dépenses qui arrivent de temps en temps aussi, sur des shootings. Oui, absolument.
Et parfois, tu travailles avec des assistants, peut-être ?
On travaille avec des assistants aussi de temps en temps. Alors, je préfère travailler avec des assistants sur le corporate, dans le sens où, évidemment, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Il faut que les prises de vue soient très bien organisées. C'est toujours bien d'avoir un assistant avec toi, parce qu'il va t'aider, parce que nous, on est au cadre, lui, il va être à la lumière, il va pouvoir régler. Il peut aussi mettre les gens à l'aise, donc ça, c'est bien. J'avoue que pour tout ce qui est écrivain, j'aime bien travailler seul, parce que le rapport est déjà très très intime entre deux personnes, et une troisième personne, je pense que ça nuirait un peu. Je ne veux pas d'interférence entre la relation que je vais tisser pendant un quart d'heure, où l'un et l'autre on donne beaucoup de choses, mais ça peut être un jeu, c'est des liens qui se tissent, et à moi de faire venir les gens aussi dans ma photographie, mais parce qu'ils me donnent des choses aussi, donc à trois c'est difficile.
Tu travailles avec quel genre de boîtier ?
Écoute, depuis quand j'étais jeune, j'ai commencé avec des Olympus. Et puis mon père m'a offert un Canon T90, qui était un très très bon boîtier, et depuis ce jour-là je suis resté Canon. Et puis, on est passé de l'argentique au digital.
Et oui.
Et oui. J'ai gardé mon Blad aussi, parce que j'ai eu une période format carré.
Ouais.
J'aimais bien. J'ai un Polaroid 1065. Donc, le Polaroid est intéressant aussi. Ça a été beaucoup utilisé, mais de temps en temps, c'est bien, parce que il y a des négatifs. Donc, tu peux avoir un tirage assez, assez important. Et puis... Et j'avais un X-Pan à Salblad aussi, que j'aimais bien.
Pour faire des panoramiques.
Ouais, pour faire des panoramiques, que j'ai revendu. J'ai eu des Leica, on me les a volés. J'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de boîtiers, de qualités très, très différentes. Et j'ai bien aimé cette période-là aussi, parce que ça m'a permis de désacraliser le matériel. Je peux travailler avec n'importe quoi. Je peux travailler avec un quick snap. Je pense qu'on peut faire des très très bonnes photos avec n'importe quoi. Donc ça, c'est important de désacraliser le matériel. J'ai bien aimé finalement ça. C'était peut-être un peu, c'était utile, je crois.
Et quand t'es passé de Canon argentique à Canon numérique, t'as gardé tes objectifs?
Alors oui, parce que on va dire l'avantage de Canon par rapport à d'autres marques, c'est que on pouvait bien sûr garder les optiques. Au début, où il y avait un boîtier qui était ce qu'on appelle full frame, plein format. Moi, je l'avais pas encore. Aujourd'hui, oui, on travaille tous, plus ou moins avec des boîtiers plein format, plein cadre. Donc, on a les optiques qui correspondent. Un 24-70 correspond à 24-70 en digital. Donc, ça, c'est quand même vraiment merveilleux.
Et pour les portraits, t'emmènes quoi comme objectif?
Alors, pour les portraits, j'emmène principalement des optiques fixes. J'ai un faible pour un 100 macro, que je trouvais vraiment très très bien. J'avais eu un 85-1-2, qui est très très beau. Il faisait des flous magnifiques. Je travaille beaucoup au 200, voire au 300. J'aime bien aussi une autre optique qui a été utilisée principalement pour l'architecture, mais moi que j'utilise pour le portrait, c'est le 45 mm à décentrement. Ce qui fait qu'on fait des bascules avec l'objectif se bascule, ça permet des flous absolument gigantesques, et on fait juste des petites mises au point comme ça sur les yeux, sur le visage. Après tout le reste part dans le flou, et le 45 mm donne cette impression qu'on est c'est un peu comme une petite chambre, et ça j'aime bien, voilà.
Au niveau des prises de vue, tu nous parlais tout à l'heure des lieux, c'est-à-dire chez l'écrivain en général.
Oui, oui, oui.
J'imagine que quand c'est des prises de vue dans les entreprises, le lieu c'est l'entreprise.
Le lieu c'est l'entreprise, oui. Alors, on peut photographier les gens dans leur univers, ça c'est sûr. Je propose aussi souvent de monter carrément des studios. Il y a un projet en ce moment qui va être réalisé dans les mois à venir, c'est de photographier toute une équipe d'une entreprise, je peux pas dire le nom encore, mais on va les mettre sur un trampoline, sur un fond blanc, et ils vont sauter. Donc je pense que les attitudes et les positions qu'ils vont avoir vont être assez incroyables. Voilà, ça peut être aussi du portrait pour moi.
Ouais, parce qu'au départ, un bureau, c'est pas forcément très sexy.
Non, un bureau, c'est pas forcément très sexy, donc ça peut se retravailler, ça se retravaille par la lumière, ça se retravaille par le cadre. Le côté flou net, justement, de certaines optiques, moi, m'intéresse. On peut aussi emmener les gens dans les garages. On peut travailler avec des lumières comme le néon. C'est toujours aussi intéressant. Après, faut-il que les gens d'entreprise souhaitent aussi se faire photographier dans ce genre de, on va dire, d'ambiance, qui est toujours un peu particulière. Photos de groupe, toujours, beaucoup. Les mettre en place, les mettre à l'aise, ça c'est assez important. La part de la réussite d'une photo, que ça soit dans un portrait, que ça soit dans une entreprise, c'est vrai que c'est mettre les gens à l'aise. Moi je vais pas, enfin je fais, voilà. Après il y a des photographes qui peuvent aussi plutôt contraindre. Moi je vais plutôt essayer de mettre à l'aise les gens.
T'as une méthode particulière pour ça ?
On parle beaucoup. On essaye de faire rire. Et j'avoue que sur beaucoup de shootings en entreprise, j'ai toujours mon iPod et des enceintes avec moi. Et je laisse un fond musical.
Ah, d'accord.
Quand un PDG, un directeur commercial, une secrétaire, on va la photographier. En général, je ferme la porte. Et puis, c'est vrai que si on peut avoir un fond musical, c'est pas mal. Parce qu'il y a toujours des périodes de petit silence comme ça, et voilà, donc ça permet de dire, voilà, je vous mets un air de jazz, je vous mets un air de salsa, et ça, je sais que ça...
Ça détend l'atmosphère.
Oui, ça détend l'atmosphère, oui, ouais, tout à fait. Ça peut être du classique, ça peut être plein de choses, et depuis que je le fais, les gens aiment bien ce petit côté-là, voilà. Et après, c'est vrai c'est bien d'avoir des bouteilles d'eau, du jus d'orange, du café à disposition. C'est un peu comme c'est un spa photographique. Il faut essayer que ça soit... Moi, je fais en sorte que les gens soient beaux sur les photos. Et ça, c'est mon boulot.
Quelque part, tu reçois les sujets dans le cadre.
Exactement. C'est vrai.
Au niveau de l'éclairage, tu prends quoi en général ?
Alors, ça va... J'ai deux tendances. J'aime beaucoup travailler au flash, boîte à lumière... J'ai plutôt des boîtes à lumière d'ailleurs en forme de rectangle. J'ai une lumière plutôt qui arrive du dessus. Beaucoup de réflecteurs argentés pour travailler les retours lumière. Et puis les retours dans les yeux aussi, c'est important. Des contres, ça c'est aussi intéressant. Depuis deux ans maintenant, j'ai des flashs portatifs. Donc plus besoin de se brancher, tout est sur batterie. Ça peut avoir des avantages, parce qu'on peut être en pleine nature, dans une forêt, sur un parking. Hop, on pose le générateur, pas besoin de se brancher. On met un parapluie, une boîte à lumière, un bol, et on peut faire. Donc ça, c'est bien. Ça permet aussi de tirer les gens dehors. Je rééclaire presque tout le temps, même en extérieur. C'est ce que je préfère. Et les autres lumières, c'est les lumières continues. Donc on va être sur du tungstène, donc c'est du 1 kg, 2 kg. Plutôt une lumière qui vient du cinéma. Que j'aime bien parce que je trouve que c'est une lumière particulière, c'est pas la même chose que le flash, la profondeur, les ombres, c'est pas la même chose, la douceur aussi. De temps en temps, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais c'est une lumière que j'aime bien aussi. Tout ce qui est Kinoflow, tube néon, c'est pas mal aussi. C'est intéressant. Un peu plus lourd, il faut du monde autour, mais c'est intéressant.
Alors, si on rentre un petit peu dans la technique, tu dois utiliser le format RAW, non ?
Absolument. Ce qui a été une découverte quand je l'ai vraiment appliqué, parce que les débuts du digital, ça a été les grosses difficultés étant, évidemment, quand on a une image avec des couleurs, de la transmettre les mêmes couleurs à la personne qui va la recevoir. Donc c'est de transmettre les mêmes couleurs d'un poste à un autre. Mmh. Donc c'était déjà, je dirais, tout ce qui était calibration d'un écran, ça c'était fondamental. Et puis en effet, le format RAW qui permet qu'on retrouve notre négatif, notre positif argentique.
Fait le développement.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais, non, moi c'était vraiment, quand je m'y suis vraiment mis, avec les conseils d'amis photographes, de beaucoup de sites sur le web, ça a été un vrai bonheur.
Tout à l'heure, on parlait des objectifs. Souvent, pour le portrait, au niveau des focales, on parle de 85 mm.
Mm-hmm. C'est une belle focale. Mm. C'est une belle focale parce qu'elle permet d'être assez proche de la personne qu'on photographie. Et puis, c'est une optique très très belle parce qu'on peut vraiment avoir un flou derrière qui est assez beau.
Oui, si on l'a en focale fixe avec une grande ouverture.
Oui, exactement.
Au niveau du mode d'exposition et au niveau de la mesure de la lumière, est-ce que tu as des choses particulières que tu mets en œuvre à chaque fois?
Mode d'exposition est assez simple. En numérique, enfin, je vois sur mon boîtier, moi, je surexpose un tout petit peu par rapport à mon traitement dans mes logiciels après. Je fais une mesure de lumière relativement sur le visage, tu vois, pondéré central. J'ai une charte grineuse que je fais une photo avec elle, ce qui me permettra après d'avoir une balance parfaite de mes blancs dans toute ma chaîne graphique. Et après, c'est parti.
Tu travailles dans quel mode en général ?
Écoute, moi je travaille en manuel. Okay. À l'optique, je dirais, mais bon, au boîtier, oui, tout le temps.
Et au niveau des prises de vue, donc tout à l'heure on a parlé des lieux, en général c'est soit l'entreprise, soit le domicile de l'écrivain.
Oui, oui, oui.
J'imagine qu'au sein de ces lieux-là, tu dois quand même étudier diverses variations.
Oui, j'essaye de faire souvent, chez les écrivains, on essaye de faire 3-4 shootings différents, donc... J'essaie de voir à quel moment va arriver la lumière, si on peut mixer et de la lumière type flash et de la lumière type lumière du jour. Moi j'aime bien aussi, donc ça peut être près des fenêtres, à contre-jour, dans des salles de bain, ça peut être...
Donc tu fais varier aussi les points de vue ?
Oui, absolument, il faut faire varier les points de vue. Il faut que les gens se changent aussi pour avoir différentes tenues. En général on tourne à minimum, c'est une tenue bien sûr, mais 2-3 tenues c'est bien. 2-3 tenues, c'est bien. D'autant plus que, tu le sais bien, les auditeurs ne le savent pas toujours, mais que ça soit dans les maisons d'édition, on travaille à 3-4 mois d'avance. Mmh. Donc, on est obligé de prévoir, entre guillemets, c'est un peu comme la mode. Donc, si on shoot en hiver, on peut se retrouver avec des chemises peut-être demi-saison ou des vêtements demi-saison parce que le livre va sortir en septembre. Et inversement. Ouais.
On parlait tout à l'heure des mises en scène des images. Est-ce que tu donnes des conseils en ce qui concerne le comportement à avoir sur l'image, les poses à prendre ?
Souvent, moi, je pense que c'est une erreur de parler pendant une prise de vue. Moi, je parle pas mal aux gens. Il y a quelques indications. Mais faire une photo quand les gens parlent, en général, c'est, par exemple, c'est pas une bonne idée puisque on a la déformation de la bouche et c'est jamais très, très beau. Beaucoup de positions, que les gens soient assis ou debout. Moi, j'installe les gens dans une position qui peut parfois faire penser à certaines photos de mode. Où les gens sont... J'aime bien que les gens soient élégants, qu'il y ait parfois un peu de retenue, un peu de classe, et parfois un peu de tension aussi dans la position. Et un peu de tension en général fait que il y a une certaine puissance, il y a une certaine passion dans la photo qui peut à ce moment-là être créée.
Est-ce que tu rencontres des problèmes lors des prises de vue ou est-ce qu'en général ça se passe bien ?
Écoute, pour l'instant, je touche du bois. J'ai jamais rencontré de gros problèmes sur des prises de vue. Après, tu peux avoir des problèmes techniques, à savoir des flashs peuvent te lâcher, que ça soit en lumière continue ou des générateurs peuvent tomber en panne. Ton système, ton optique peut... Moi, sur une prise de vue, si mon boîtier est à un moment tombé en panne, ça m'est arrivé aussi.
Mais t'en avais un deuxième.
Mais j'en avais un deuxième. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Après, des difficultés, il y a des gens qui... C'est parfois très 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 difficile. Peut-être sur les hommes politiques, de temps en temps, j'ai eu 2-3 expériences qui étaient assez malheureuses, où là, le temps qui m'était imparti était vraiment du temps de... C'était un milliseconde où ils pouvaient poser pour moi. Donc, on essaye d'arracher quelque chose, mais on n'est vraiment jamais satisfait. C'était assez frustrant.
J'avoue. Donc, si on ne tient pas compte des hommes politiques, en général, tu prends combien de prises de vue pour...
Souvent, une prise de vue pour un écrivain, on va parler en... comme une carte, ça tourne entre 4 et 6 gigas. Mais on est en RAW. Donc on est à 200, 300 images. Mais la prise de vue, on est souvent sur une demi-journée.
Pour en garder une, finalement.
Alors, pour en garder une, voire deux, trois, suivant ce que les maisons d'édition prennent. Et après, moi, c'est comme d'autres photographes, on demande aux écrivains, ou en tout cas aux personnes photographiées, si on peut rediffuser... les images qui n'ont pas été sélectionnées par l'éditeur, via une agence de portraits. Alors après, chacun a son agence par laquelle ses photos vont être redistribuées. Moi, j'en ai plusieurs, donc ça se passe. Ça, c'est la deuxième partie.
En phase de post-production, tu dois utiliser donc des logiciels pour gérer les images, pour traiter les images.
Oui, tout à fait.
Ce sont lesquels ?
Alors, moi, principalement, écoute, j'avais commencé à utiliser Digital DPP de Canon. Donc ça, c'était technique, classique, livré avec. Et puis, je suis passé, quand Aperture est sorti, je suis passé en Aperture, qui était un logiciel qui, moi, me convenait bien, puisque... il gérait vraiment tout le flux de la production, à savoir du format RAW. Il permet de passer en JPEG TIFF. Il permet pas mal de choses déjà, tout ce qui est balance des blancs, colorimétrie, quelques retouches. Si on veut faire plus de retouches, on peut maintenant passer dans Photoshop CS3. L'interface, il n'y a aucun problème. On peut revenir dans Aperture. Il y a toute la partie catalogueur. Très très important avec tous les mots-clés, comment retrouver une image quand elle est bien classée. Si elle est mal classée, c'est impossible de la retrouver. Il y a toute la partie diffusion que moi j'aime bien aussi, puisque aujourd'hui, avec il n'y a pas que Apple ne fait pas, il y a d'autres logiciels qui le font aussi, mais Apple le fait bien, je trouve. On peut publier sur le web très très rapidement. On a un compte Mac, hop, tout de suite, notre client, l'écrivain, peut se retrouver avec le site web qui lui est dédié. Donc il peut faire un choix aussi. Et puis il y a une partie que j'aime bien aussi, c'est les livres, création de livres, mini-livres, format A4, voire plus, où là on peut mettre en page. Moi j'avoue que ça c'est que j'aime bien aussi mélanger les lettres, les textes et les photos. Et ça aussi c'est un très bel objet, je trouve.
Si on en revient à la méthode de classement, elle est basée principalement pour toi sur les mots-clés.
Oui, pour moi c'est principalement du mot-clé, puisque moi je photographie principalement des personnes, donc c'est leur nom, c'est aussi leur métier, c'est aussi la maison d'édition. Après moi aussi c'est des critères que j'ai rentrés, qui sont tout ce qui est au niveau de la technique, cadrage horizontal, vertical, type de lumière, ce qui permet après de faire des recherches plus pointues, à savoir toutes les photos que j'ai faites au flash, toutes les photos qui ont été faites avec cette optique-là. Ça, c'est vraiment intéressant.
Alors, c'est un logiciel nouveau qu'Apple a sorti il n'y a pas très très longtemps. Est-ce qu'il y a des problèmes que tu as rencontrés avec, justement, à cause de ça ?
J'ai dû changer de carte graphique.
Ah !
Parce que ça... la mienne n'était pas suffisante. Il est très agréable quand on a deux écrans. Donc, évidemment, deux écrans, tout de suite, voilà. Donc, je me suis retrouvé sur une Nvidia... je ne sais plus combien, mais qui était très très bien, et ça marchait vraiment bien. Des problèmes particuliers, écoute, j'avoue que non. Ça a été, je l'ai pris pas à pas, et ça s'est plutôt bien passé, j'en suis pour l'instant assez satisfait.
Quel genre de traitement tu appliques sur les images en général, pour un portrait ?
Alors pour un portrait, tout de suite, moi quand la photo va rentrer dans le logiciel, tu vas avoir une balance des blancs. Donc, qui permet d'avoir une image, une colorimétrie assez neutre tout de suite, ce qui fait déjà une base. Après, tu peux faire ce que tu veux derrière, mais au moins tu as une base. Le fichier RAW étant de toute manière très très mou, moi je resserre tout de suite un peu l'histogramme, un peu d'accentuation, et puis après il y a toutes les retouches, on va dire peau, qui sont que moi je fais dans Photoshop à ce moment-là, avec les calques, des jeunes femmes, des jeunes filles, on peut travailler un peu les cernes, on peut travailler un peu des petits boutons qui apparaissent comme ça, voilà, voilà. Donc ça se retravaille aussi après.
Donc t'as apprécié la venue dans CS2, l'arrivée du correcteur de ton direct, sûrement.
Correcteur de ton direct, oui, oui. Fluidité aussi, j'aime bien, j'aime bien. Tout ça doit se faire très très subtilement pour pas abîmer l'image, surtout pour pas que ça se voit.
Il y a des demandes des clients par rapport à ça en particulier ?
Les gens, moi j'ai des gens qui me disent, oui, si on travaille en digital, je veux bien, parce que l'argentique... J'ai certaines personnes qui m'ont dit, écoutez, non, si vous aviez travaillé en argentique, on n'aurait pas travaillé ensemble. L'idée de la retouche derrière, pour certaines personnes, est quand même très très agréable et voire rassurante. Il faut dire que certains auteurs de mes auteurs ont quand même une vie assez folle. Je ne les photographie pas toujours à 4h de l'après-midi, mais parfois à des heures indues aussi, donc voilà.
Peut-être que tu fais du recadrage aussi un peu ?
Je recadre de temps en temps, ouais, 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 de temps en temps. Mais j'aime bien avoir mon image, si on a une image plein pot, c'est quand même, je trouve que c'est plus agréable. Mais ça m'arrive de recadrer, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Je m'en dirais si je disais non.
Et l'exportation, que ce soit pour le web ou pour les clients, tu le fais directement depuis ton logiciel ?
Écoute,
pas
oui.
De scripts spéciaux dans Photoshop, par exemple.
Non, c'est vrai que non, j'en ai pas fait. Non, j'en ai pas fait. Ça se fait directement. Aperture le fait très très bien. Il y a pas de souci. Ça arrive dans mes disques durs externes. La production a été gravée sur des DVD avant, donc. Après, c'est vrai que ce qui est bien, c'est d'envoyer. Si les sociétés ont des FTP, on travaille via les FTP. Sinon, on fait passer un coursier. Sinon. Moi, ça m'arrive d'envoyer des photos via mail aussi, donc quand c'est pas trop trop compressé, ça va, ça tient dans les boîtes mail.
Donc tu livres des fichiers, mais plus vraiment de tirage.
Ça fait longtemps que j'ai pas livré de tirage, ouais. Chez Flammarion, de temps en temps, il y a des tirages qui sont faits de toutes les photos. Donc je sais que les attachés de presse distribuent des tirages. Sinon, il faut avouer que
toi tu les vois plus.
Moi je les vois plus. Non, je les vois plus. Non, je les vois plus. Je les vois de temps en temps sur les bureaux, je dirais, des responsables d'iconographie des magazines ou des journaux. Je dis ah oui tiens ça là c'est à moi. Mais sinon, il faut avouer que tout arrive dans les boîtes mail. Hein. C'est quand même beaucoup plus facile.
Et ces fichiers, quelles spécifications ils ont ? Est-ce que c'est du TIFF, du JPEG ? Quel profil de couleur ?
Ils ont mon profil ICC, ça c'est sûr. Après, il y a mon copyright, pas mal d'informations à l'intérieur. Ils font en général, le fichier fait 1 méga compressé.
Donc c'est du JPEG, oui.
Oui, c'est du JPEG, oui, ouais, tout à fait. Sinon, il n'y a pas de TIFF de temps en temps, oui, sur les FTP, parce que ça, on peut les envoyer, sur des grands formats. Mais moi, j'ai souvent envoyé du JPEG. Après, il y a toute une base TIFF, hein, sur la même photo, il y a la base TIFF, et il y a la même photo en JPEG, bien sûr.
Et est-ce que tu as des retours des clients ? Est-ce que parfois on te dit, ah, c'est pas mal, mais il faudrait corriger ça, ça ou ça ?
Oui. Ça m'est arrivé. Peut-être des retouches que moi j'avais pas vues, ou parfois il y a des gens qui souhaitent être un peu plus retouchés. Mmh. Donc là, c'est aussi une autre approche. Là, il faut un peu plus travailler. Donc ça m'arrive de revenir sur une image.
Et ça rentre dans le cadre du contrat qui était passé, ou il y a un nouveau contrat ?
Non, il n'y a pas de nouveau contrat. Si la retouche est beaucoup trop compliquée, parce que moi, je suis un photographe, mais je pense qu'au niveau de la retouche, il y a des retoucheurs professionnels. Mmh. Et quand on parle de retouche professionnelle, des gens qui font de la beauté pour des grandes marques, moi, je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Là, à ce moment-là, je dis... Il faut transmettre à quelqu'un qui a un niveau de compétence supérieur.
Et tout à l'heure, tu disais qu'il y a certaines images qui n'étaient pas sélectionnées pour les quatrièmes de couverture, par exemple, qui partaient dans des agences.
Oui, absolument.
Ça se passe comment, absolument. À ce
niveau-là ? Ça, c'est il y a des agences plus ou moins spécialisées dans le portrait. En tout cas, il y en a plusieurs sur la place de Paris. Il y en a une qui s'appelle Opal, qui a à peu près... une quarantaine, cinquantaine de photographes dans le monde entier, et qui vraiment s'occupe du portrait d'écrivains, en tout cas d'hommes et de femmes de la culture. Donc, c'est vraiment des spécialistes. Ils sont consultés dans le monde entier. En France, ça marche bien. On peut voir leurs photos créditées dans de nombreux magazines. Et c'est vrai que c'est aussi assez agréable. Et ça fait une source de revenus complémentaire pour pas mal de photographes. Il y a la session payée par l'éditeur. Et puis, il y a toute la diffusion agence.
Est-ce que parfois, tu travailles directement pour des agences ?
Oui, ça m'arrive aussi de produire directement pour les agences, absolument. Quand y a un éditeur que je connais bien, il y a déjà eu des sessions de photos de réaliser, parfois à l'étranger, ils n'en ont pas besoin. Moi aussi, je peux parfois demander à faire une session de photos pour une distribution France. Ça arrive, oui, tout à fait. Et puis c'est bien de continuer de toute manière, il faut produire, je dirais, sans commande. Parce que ça permet de rencontrer des gens, ça permet de tisser des liens. Et puis, si les livres étrangers, par exemple, ils arrivent en France souvent un an après, un an et demi après. Donc, il y a toujours des photos qui sont utilisées.
Donc, tu peux produire sans commande et proposer les images à des agences.
Absolument, oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier de produire sans commande, c'est très, très important.
Et peut-être tu vends tes photos sur Internet ?
Non, j'avoue que je ne vends pas les photos sur Internet. Elles restent en distribution en agence. J'ai à un moment donné pensé le faire. Je trouve qu'on passe déjà beaucoup de temps à essayer de bien faire le métier. Il y a toute la partie réalisation des images. Il y a toute la partie démarche, commercialisation. Moi j'essaye de rencontrer le plus de monde possible. Il y a aussi tous les projets personnels qu'on peut avoir. Donc j'avoue que toute la partie distribution, vente des images, je l'ai complètement déléguée.
Et tout à l'heure tu me disais que pour une séance, pour un portrait, tu pouvais ramener jusqu'à, ou même en moyenne, 6 gigaoctets. Comment tu fais pour la sauvegarde et l'archivage de toutes ces images ?
Tout est sur des disques durs. Ouais. J'ai 2 téra de disques durs. Et puis je grave du DVD tout de suite de la production. Donc j'ai plein de DVD à la maison où il y a toutes les archives. Et tous les disques durs qui marchent en permanence aussi. Mais ça fait beaucoup de stock, ça fait beaucoup de stock, ouais.
Tu fais pas de tirage papier des fois ?
Je fais jamais de tirage papier. J'en fais de temps en temps, tu vois, par exemple pour le book. J'ai plusieurs books qui tournent, donc pour les renouveler. Là, à ce moment-là, j'envoie ça à mon labo et j'ai des tirages. Moi, je fais du tirage à 3. Et ça me permet de voir toujours si tout va bien, mais comme je fais des tirages régulièrement avec les productions qui avancent, si tu veux, ça, voilà, c'est les tirages papier. Mais ils arrivent dans le book. Ils arrivent dans le book. Okay. Voilà.
Tout à l'heure, tu nous parlais de tes jeunes années d'apprentissage de la photo. Est-ce qu'il y a un élément que tu as appris à ce moment-là et qui te sert encore aujourd'hui, au jour le jour ?
Moi, j'ai mon maître en photographie, j'en ai eu plusieurs, mais Joachim Bonnemaison. Ce que j'ai toujours aimé, c'est évidemment sa curiosité. C'était aussi quelqu'un de très précautionneux et j'ai beaucoup appris aussi à respecter le matériel, à faire attention à le protéger. La curiosité, moi je vais toujours vers les... Aujourd'hui encore, j'ai bien évidemment toujours dans des expos, je rencontre des jeunes photographes, je surfe pas mal sur le web pour voir ce qui s'y fait. Il faut se tenir au courant des choses, rencontrer du monde. Et puis pas hésiter, comme produire sans commande, avoir ses propres projets. Ça, c'est très très important.
Donc ça rejoint une autre question que je pose souvent, c'est quel serait le conseil pour les débutants ?
Conseil pour les débutants.
Être curieux.
Oui, être curieux, ouvert sur le monde. Essayer de faire des photos avec tous les types d'appareils possibles. Explorer plein de voies. Moi, j'ai jamais souhaité m'enfermer dans un style de photographie particulier, même si aujourd'hui je fais du portrait. Mais j'avoue qu'à chaque fois, quand j'improvise les choses. Même j'ai pas un système de lumière. J'ai une espèce de base, de système, et j'évolue à l'intérieur. Il faut toujours se laisser des fenêtres ouvertes pour pouvoir réagir à un moment donné. Je vois beaucoup de choses où je trouve les systèmes photographiques et les systèmes de lumière sont très très fermés. Je trouve ça assez répétitif. Moi, j'essaye de pas trop me répéter. J'ai une grande admiration pour les photographes de mode, parce que je trouve qu'à chaque fois, à chaque série qu'ils réalisent, ils essayent de faire des choses différentes et s'adapter. J'avoue que je préfère ça à des choses trop, trop répétitives.
On va terminer par une petite question par rapport à ta démarche de création. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé de ce que tu fais en ce moment. Donc la question, c'est qu'est-ce qui a changé fondamentalement par rapport à tes débuts, entre tes débuts et aujourd'hui ?
Au début, j'étais vraiment un peu chien fou, je crois. J'ai photographié, j'ai fait plein de choses complètement différentes d'ailleurs. Aujourd'hui, je dois être un peu plus calme, un peu plus concentré. Moins de projets, mais des projets qui vont au bout des choses. Les techniques ont changé. Je reviens juste deux secondes, par exemple, sur le CS3 de Photoshop. Il y a carrément un module destiné au téléphone mobile. Mmh. Ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Et j'avoue que si je pouvais travailler dans les prochaines années, justement, avec cette possibilité d'envoyer des photos directement sur les portables des clients ou des gens que tu as photographiés, ça peut être. On va sur des choses qui sont vraiment intéressantes au niveau de la diffusion d'images. Ça, c'est vraiment impressionnant.
Merci Arnaud.
Merci Nicolas.
Salut.
Salut.